La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand Haine, Hélène Maquet.
Voilà, la première image en direct, Nelson Mandela.
Si nous libérons Mandela, nous libérons un super marxiste qui appartient à une organisation basée à l'étranger pour tenter de renverser le gouvernement sud-africain.
Il y a des matins comme ça où la radio annonce que le monde est en train de changer, qu'il change vite et qu'il progresse vers un avenir plus pacifique et plus juste.
Toute l'année 89, le monde semble s'éloigner de la tragédie dans laquelle l'histoire n'a cessé de le ramener. Traité sur les armes nucléaires, fin de la guerre en Afghanistan, chute du mur de Berlin.
Et 1990 semble confirmer 1989. Le 11 février, la radio diffuse le discours du président de l'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk. Il annonce la libération du prisonnier politique le plus célèbre du monde.
La libération de Nelson Mandela signe la fin de l'apartheid, le couronnement d'un très long combat contre les discriminations raciales.
Pourtant, les pays occidentaux ont longtemps soutenu le régime de l'apartheid, mais la fin de la guerre froide change les rapports de force.
Nelson Mandela est passé du paria au mythe, du terroriste à l'icône universelle.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue où l'on se replonge donc dans l'un des événements les plus marquants du XXe siècle.
Oui, la libération de Nelson Mandela, le plus célèbre prisonnier politique du monde, arrêté en 62 en Afrique du Sud, emprisonné durant 27 ans. Sa libération est un événement politique et médiatique mondial, diffusé dans le monde entier. Elle symbolise en 1990 la fin d'une époque, la fin de l'apartheid qui avait pu survivre grâce à la guerre froide et la peur du communisme.
En 20 ans, Nelson Mandela est passé du terroriste ennemi de l'Occident à l'icône universelle rejoignant Gandhi ou Martin Luther King dans les icônes du XXe siècle. Un tour de force politique que Nelson Mandela a réussi grâce à un sens politique et un sens de la communication hors du commun.
Oui, la libération de Nelson Mandela, on est donc le 11 février 90, est un événement médiatique aussi, comme le fut la chute du mur de Berlin quelques semaines avant ou plus tard, le 11 septembre. Beaucoup de gens savent encore ce qu'ils faisaient, où ils étaient lorsque Mandela a été libéré. L'Afrique du Sud a vécu un vrai tournant de son histoire sous les yeux du monde entier.
Alors pourquoi la lutte contre l'apartheid a-t-elle triomphé? Comment expliquer un tel succès? Quelle est la situation aujourd'hui en Afrique du Sud, 32 ans après l'événement? Voilà nos questions pour cette émission. Alors pour y répondre, nous aurons par téléphone Pierre Galland, qui a été l'une des chevilles ouvrières de la lutte contre l'apartheid ici en Belgique.
Et avec nous également Julie Morel. Bonjour.
Bonjour Bertrand.
On vous
Bonjour
connaît
Hélène.
Évidemment comme présentatrice de Déclic, journaliste ici à la RTBF. Et vous avez passé, c'est pour ça que vous êtes là, plus d'un an en Afrique du Sud. C'était en 1995, après vos études. Et vous avez rencontré Nelson Mandela.
Ouais, quelle chance, hein.
Quelle chance. Et ça, c'est un peu plus tard, en 99.
Ouais, tout à fait, pendant mon travail de fin d'études.
Vous allez évidemment nous raconter cette rencontre, on n'en dit pas plus pour l'instant. Et puis, pour l'indication aussi, vous avez aussi réalisé votre mémoire, votre travail de fin d'études, sur cette Afrique du Sud post-apartheid, post-libération de Mandela.
Allez, on replonge quelques semaines avant la libération de Nelson Mandela, fin 1989, direction Le Cap, en Afrique du Sud.
Décembre 1989. Frédéric de Klerk, président de l'Afrique du Sud, travaille dans son bureau. La ville du Cap fourmille derrière les vastes fenêtres. À 53 ans, Frédéric de Klerk est au sommet de sa carrière politique. La famille de Klerk a fait la guerre des Boers contre les Anglais, a combattu les Zoulous et participé à instaurer l'apartheid après la guerre. Naturellement, Frédéric de Klerk s'est inscrit au Parti national comme son père et son grand-père, parti qui défend les intérêts des Afrikaners. Aujourd'hui, le président attend un invité très spécial. Tellement spécial que son arrivée est soigneusement tenue secrète. Cet invité a dû venir dans une voiture aux vitres fumées, entrer par le garage, monter sous bonne garde, sans jamais croiser personne, jusque dans son bureau. Nelson Mandela. leader du Congrès national africain, prisonnier depuis 27 ans, ennemi des Afrikaners, se tient là, dans le sein des saints du pouvoir blanc. Les deux hommes se jaugent du regard. Frédéric de Klerk n'avait jamais vu Mandela. Même sa photo est interdite dans le pays, il l'imaginait plus petit. Mandela dit bonjour, en afrikaner, qu'il a appris en prison. Puis, les deux hommes entament une longue conversation. Le sujet principal, comment éviter la guerre civile. Et la solution, c'est ce que le président s'apprête à dire, dans deux mois, lors de la journée du 2 février, devant le Parlement de la République d'Afrique du Sud. Une journée que les deux hommes préparent dans les moindres détails.
Au Parlement, la petite phrase tombe net. L'ANC, le mouvement anti-apartheid, interdit depuis 1960 et légalisé. Frédéric de Klerk crée le choc. Frémissement dans l'assistance parmi les députés exclusivement blancs. Autre décision, la libération inconditionnelle de Nelson Mandela.
Le 2 février, Frédéric de Klerk annonce ni plus ni moins que le début de la fin de l'apartheid, ce régime de ségrégation raciale qui assure la domination politique des Blancs dans le pays. Il annonce la levée progressive de l'état d'urgence, la fin de la peine de mort, le rétablissement des libertés syndicales et surtout la levée de l'interdiction de l'ANC, le parti qui défend les intérêts de la majorité noire, contre la minorité blanche. Et puis enfin, la libération prochaine de Nelson Mandela. Devant le Parlement, des milliers de militants noirs sont rassemblés.
Winnie Mandela, au même moment, embrasse l'archevêque Desmond Tutu. Puis monte à la tribune. Je suis heureuse d'être avec vous en ce jour historique. Ils viennent d'apprendre que les prisonniers politiques seront libérés et que l'état d'urgence sera progressivement levé. Une victoire pour Winnie Mandela et ses proches. C'est une journée qui marque, je pense, une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. Et j'espère que nos espoirs ne seront pas à nouveau écrasés par un gouvernement qui aurait peur de faire de nouveaux pas en avant.
Mais l'annonce de Frédéric de Klerk est autant saluée que conspuée. L'aile radicale de l'ANC crie au chantage, l'aile radicale du Parti national crie à la trahison. L'extrême droite afrikaner se sent abandonnée et est même prête à la guerre civile.
Si de Klerk continue comme ça, on va droit à la guerre civile. Dixit Wilhelm, obèse, des bras de bûcheron, les traits grossiers, moustaches, shorts et grosses chaussettes. Un afrikaner. Et le pire, c'est qu'il a raison. La plus grande crainte du gouvernement à présent, c'est de voir les leaders en exil de l'ANC à leur retour se faire assassiner par l'extrême droite blanche qui a l'habitude d'entonner des chants nazis au cours de ses meetings. Arrive un bus taxi, une vingtaine de noirs en sortent et commencent à chanter en l'honneur de l'ANC. Encore une caricature simpliste de journaliste, dirait un Sud-Africain s'il entendait ce billet. Bien sûr, tous les noirs ne chantent pas le toy-toy, tous les anglais ne sont pas nonchalants et les afrikaners gros et moustachus. Mais il faut dire que dans ce pays, bien souvent, la caricature rejoint la réalité. Johannesburg, Philippe Delbrouck, pour Radio 1.
Dans sa prison de Victor Fester, près du Cap, Nelson Mandela regarde, satisfait, la première pièce du puzzle se mettre en place. La deuxième, c'est donc sa libération. Il sait, Nelson Mandela, qu'il représente un symbole très puissant, que l'apartheid est à bout de souffle, que le régime a besoin de lui pour que l'Afrique du Sud devienne enfin un pays normal.
Nelson Mandela, héros des ghettos noirs d'Afrique du Sud, est devenu le symbole international vivant de la lutte contre la discrimination raciale. L'homme qui avait osé défier le pouvoir blanc dans les années 60 est aussi, au fil des années de détention, devenu un mythe. L'homme dont on ne pouvait publier la photo en Afrique du Sud sous peine d'amende. Un prisonnier pour lequel le gouvernement faisait des concessions après avoir été malade, soigné dans une des meilleures cliniques privées du pays, Nelson Mandela a eu droit à une maison avec piscine dans l'enceinte d'un complexe pénitentiaire. 3 chambres, salle de travail équipée de télé, radio et dans la cuisine, un four à micro-ondes. Pour servir Nelson Mandela, un fidèle officier blanc à son service depuis des années. Mandela a obtenu plusieurs diplômes derrière les barreaux, mais s'il a parfois été autorisé à passer Noël ou un anniversaire en famille ou avec des amis, aujourd'hui, à 71 ans, il a vécu 27 ans en prison, ce qui en fait le plus célèbre prisonnier politique du monde, mais surtout le plus vieux.
Nelson Mandela a patiemment construit son mythe. Il détient désormais un pouvoir immense. Alors, il négocie et écrit le scénario de sa libération. Parmi ses conditions, il veut sortir à pied de sa prison avec sa femme Winnie à ses côtés. Les rédactions sont prévenues, les journalistes débarquent en masse, les télévisions du monde entier sont en direct.
72 years old.
Nelson Mandela a, je vous le rappelle, 71 ans. Il a passé environ 27 ans en prison. 27 ans pendant lesquels il est devenu le leader incontesté de la lutte anti-apartheid.
Il faut du temps pour que Mandela arrive. L'image tremble. On voit des voitures, des motos, des policiers blancs et des gardes de sécurité noirs de l'ANC qui courent dans tous les sens pour tenter de contenir la foule.
Voilà la première image en direct. Vous vivez l'événement en direct. Nelson Mandela avec sa femme Winnie.
Dans son costume gris, Nelson Mandela marche enfin au milieu de la route. La démarche est un peu hésitante. Calme, il regarde la foule et à plusieurs reprises, il lève le poing.
Une image historique.
Et puis, il rentre dans une voiture. À ce moment-là, Nelson Mandela doit se dire qu'il a déjà gagné. Il est acclamé comme une figure universelle, quasiment une sorte de nouveau Gandhi. Il est salué même aux États-Unis, où le président Bush l'a invité.
It is a great pleasure. For Barbara and me to welcome to the White House, Mr. and Mrs. Mandela.
Welcome, sir.
Welcome, sir. Mais cette reconnaissance est le fruit d'un long combat, un très long combat. Quand il est arrêté le 5 août 1962, c'est entre autres grâce à des informations de la CIA, parce qu'il est le chef de la branche armée de l'ANC, un parti que les États-Unis considèrent comme terroriste, à risque pour propager le communisme et l'influence de Moscou. Vu les richesses minières et la place stratégique de l'Afrique du Sud, les États-Unis et d'ailleurs la majeure partie des pays occidentaux considèrent Mandela comme un terroriste et soutiennent le gouvernement afrikaner. Un narratif qui durera tout au long de la guerre froide.
Nombre de dirigeants européens qui viennent de recevoir le Premier ministre sud-africain ont évoqué le sort du leader noir. Réponse de Peter Botha, si nous libérons Mandela, nous libérons un super marxiste qui appartient à une organisation basée à l'étranger pour tenter de renverser le gouvernement sud-africain.
La lutte armée est en effet devenue un pilier de l'ANC. Après des années de lutte pacifiste, le massacre de Sharpeville, qui fait 70 morts parmi des manifestants noirs, fait changer les choses. Mandela entre dans la clandestinité et organise la lutte armée, mais sans renoncer en même temps à un horizon démocratique. Une forme de modération au sein de l'ANC qui en fait la figure centrale. Le discours de défense lors de son procès est devenu un classique du genre. Il est évoqué ici, dans le film « Mandela, un long chemin vers la liberté » avec Idriss Elba.
Oui, je reconnais avoir planifié ces sabotages. La triste réalité, c'est que 50 ans de non-violence n'ont été d'aucun bénéfice pour mon peuple. Il s'est vu peu à peu imposer une législation répressive qui l'a privé de tous ses droits. Nous voulons l'égalité des droits civiques pour tous. Un homme, une voix. Je me suis consacré à cette lutte aux côtés de mon peuple. J'ai lutté sans relâche contre la domination blanche. Et j'ai lutté sans relâche contre la domination noire. J'ai caressé l'utopie d'une société libre et démocratique dans laquelle tous les citoyens de ce pays vivraient ensemble, en harmonie, avec des chances égales. C'est un idéal auquel je fais le vœu de consacrer ma vie. Mais, si on m'y oblige, c'est un idéal pour lequel je me sens prêt à mourir.
Dès 1962, Mandela sait qu'il ne changera pas l'Afrique du Sud de l'intérieur. Il faudra aller chercher du soutien à l'extérieur. L'ONU vote une résolution appelant à la fin de l'apartheid et demandant aux pays membres de prendre des mesures pour y mettre fin. Dans plusieurs pays du monde, des comités anti-apartheid se mettent en place. Une campagne de boycott politique, culturel, économique et sportif se met en place à une échelle inégalée. L'Afrique du Sud devient peu à peu un État paria, mais qui compte encore quelques puissants soutiens.
L'ONU vote résolution sur résolution contre l'Afrique du Sud, rien n'y fait. La population noire est cantonnée dans des ghettos si elle est prolétaire. Si elle ne l'est pas, elle est parquée dans les 9 Bantoustans, petits territoires destinés à l'indépendance, souvent pauvres, réserves humaines moins bien protégées que les réserves animales. Ces territoires accueillent des millions d'habitants alors qu'ils ne représentent que 20% du territoire de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est donc l'image d'une politique violente qui bénéficie du soutien des armes françaises et anglaises, une politique favorisée aussi par les États-Unis, si l'on en croit le contenu d'un rapport secret publié en janvier 1970 par le Washington Post. Politique soutenue enfin par l'Église réformée d'Afrique du Sud, qui considère que les mariages interraciaux pourraient détruire l'identité et la variété créées par Dieu, ce qui les rend indésirables et illégaux.
Avec la détente, le déclin de l'URSS, l'Afrique du Sud parvient de plus en plus difficilement à trouver des soutiens à l'apartheid. Déjà écrasant, dans les pays dits du tiers-monde ou les États dits socialistes, la cause de Mandela trouve aussi de plus en plus d'adeptes maintenant en Occident. Au cours des années 80, elle parvient même à devenir mainstream. Les plus grands artistes s'en réclament.
I think it's an extraordinary thing. It was a huge rock concert, and all this energy that's generated by this event. This is all generated from one man that none of us has ever met, Nelson Mandela.
Le 11 juin 1988, au stade de Wembley, à Londres, capitale d'un pays qui refuse encore toute sanction économique et soutient le gouvernement d'Afrique du Sud, Dire Straits, Stevie Wonder, Whitney Houston donnent un concert d'hommage à Mandela devant 70 000 personnes. Il sera rediffusé dans 70 pays. On estime qu'il a été vu par près de 600 millions de personnes à travers le monde. Un titre composé par Simple Minds, devient même un tube, Mandela Day. 2 ans plus tard, Nelson Mandela retrouve la liberté. It was 25 years to take that man away.
Now the freedom moves in closer every day. Simple Minds, Mandela Day, en souvenir de ce concert à Wembley en 1988. 600 millions de personnes donc auraient vu ce concert.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand N.
Et on retisse donc les liens aujourd'hui qui nous ramènent aujourd'hui encore à ce mois de février 1990, à la figure de Nelson Mandela et puis à la fin de l'apartheid aussi. Pourquoi Nelson Mandela a-t-il gagné son combat? Comment l'a-t-il remporté? C'est ce qu'on essaie de comprendre.
Oui, j'ai notamment demandé, j'ai posé cette question à Pierre Galland, qui a été l'une des grandes figures de la lutte contre l'apartheid ici en Belgique, puisqu'il était président de la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie. Et je lui ai demandé d'abord de nous raconter sa journée du 11 février 90.
Eh bien, le 11 février, j'étais devant mon poste de télévision avec vraiment rempli d'une très grande émotion parce que c'était un moment historique qu'on était en train de vivre et ma sonnette de la porte de rue a sonné parce que déjà un journaliste de Belga et une journaliste de la Cité à l'époque étaient là pour demander une première réaction par rapport à ce moment que je vivais, je vous le dis franchement, en famille. Mmh. Nous étions tous... voilà.
Ouais. Si c'était une intense émotion, c'est parce que vous étiez engagé avec d'autres dans ce combat, dans cette lutte contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes retrouvé, vous, Pierre Galland, à lutter contre l'apartheid en Belgique?
C'est pas difficile, vous savez, en Belgique, dès les années 60, il y a une réaction et il y a des gens, comme la professeure Paulette Pierson-Maty, décédée récemment, qui vont mener un combat permanent pour dénoncer ce qu'est l'apartheid. Et aussi bien, si bien que les organisations de jeunesse qui se réunissent ensemble, les jeunesses progressistes, les socialistes, les chrétiens, les communistes, qui vont créer le nouveau mouvement de la paix des années 70, vont directement mettre dans leur programme la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que l'interpellation est là. Il faut se rappeler qu'en 1973, Steve Biko est arrêté et qu'il y a un soulèvement populaire en Afrique du Sud important qui va être réprimé par le système d'apartheid, par la police, en 1976. Et ce soulèvement, c'est le soulèvement des Township et le massacre de Soweto. Et donc, ça va mobiliser, ça va rendre les choses plus claires pour tout le monde que cet apartheid ne peut pas durer. Et alors, on a un ennemi, c'est pas seulement l'Afrique du Sud, c'est qu'en Belgique, il y a une organisation qui s'appelle Protea, qui est une organisation qui fait tout un travail de défense des intérêts de l'Afrique du Sud en Belgique et des intérêts commerciaux puissants qui existent entre la Belgique et l'Afrique du Sud. Et donc, il va se construire petit à petit une grande campagne qu'on va appeler Action Afrique Australe avec le CNAPD, le mouvement de la paix, et tout ça sous l'impulsion, l'intelligence d'une personne qui était Madame Paulette Pierson-Maty. Et si bien qu'on va apprendre ce qu'est l'Afrique du Sud, on va faire des séminaires, on va devenir compétent en cette action et découvrir qu'au fond, c'est pas seulement l'Afrique du Sud, mais que l'Afrique du Sud, c'est aussi toute une série de pays de la ligne de front, que ces pays de la ligne de front, ce sont tous ces pays, le Mozambique, l'Angola, la Tanzanie, qui sont dans la résistance aux côtés des Noirs d'Afrique du Sud.
Quand on commence à comprendre ici en Belgique ce que signifie l'apartheid, c'était Pierre Galland, président à l'époque de la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie. Nelson Mandela, donc libéré en 1990, devient président d'Afrique du Sud en 1994. Julie Morel, vous allez le rencontrer en 1999, donc presque 10 ans après sa libération. Comment ça se fait?
Ben écoutez, ça s'est fait totalement par hasard. Moi, j'avais passé déjà une année en Afrique du Sud. J'étais fascinée par l'histoire de ce pays, par ce pays qui avait une histoire absolument tragique, mais qui était en train de vivre aussi quelque chose d'exceptionnel, parce que tout d'un coup, grâce au combat de cet homme et de tous ceux qui l'ont accompagné, mais c'est lui, Nelson Mandela, qui incarnait ça, ce pays était en train de changer l'histoire. Et donc, moi, j'étais fascinée par Mandela. Je me disais, oh, wow, ce serait tellement bien de le rencontrer, mais je me faisais aucune illusion. J'avais rencontré des journalistes sur place quand je faisais mon travail de fin d'études, qui étaient sur une liste depuis des mois, voire des années pour le rencontrer. Et tout le monde m'avait dit, c'est impossible. Et pour dire la vérité, j'ai même pas essayé. J'ai pas envoyé de demande d'interview ou de rencontre de Mandela parce que ça me semblait totalement inaccessible. Et puis, il se fait que j'ai mené toute une série de recherches sur le campus de l'université de Johannesburg.
Dans le cadre de votre mémoire.
Dans le cadre de mon mémoire. Et à un moment, je demande l'heure à quelqu'un. Et il se fait que ce quelqu'un, c'est le petit-fils de Walter Sisulu. Walter Sisulu, c'est un des compagnons de lutte de Mandela, qui a aussi passé un peu moins de 30 ans en prison. C'est un des grands leaders de l'ANC. Et il me dit, ah, tu sais quoi, après-demain, je vais manger chez Mandela. Est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai cru que c'était un gros piège, voire un plan drague, mais en fait...
Vous avez hésité.
Oui, j'ai quand même hésité, parce que bon, j'en avais pas encore vraiment fait connaissance, mais bon, j'avais partagé le sujet de mes recherches et l'intérêt que j'avais pour ce pays. Et il s'est dit, écoute, voilà, tu peux venir avec moi. Moi, je dois le voir parce que Mandela, là, il est plus président. On est fin de l'année 99, il est plus président, mais il s'engage dans toute une série d'organisations, d'associations humanitaires. Il est engagé dans plein de causes et il se fait que ce jeune Sisulu voulait travailler dans ces organisations avec lui, qu'ils avaient des projets en commun. Et donc, je suis allée chez Mandela un jour, à midi.
Racontez-nous, à quoi ça ressemble?
Une maison très simple. À l'image de l'homme, on est à 5 à table, j'ai la chance d'être assise à côté de Monsieur Nelson, et c'est lui qui parle, en fait on écoute, hein.
Ouais.
On est impressionné en fait, parce que l'aura de ce type, c'est juste indéfinissable en fait.
Quand il apparaît, il y a une vibration autour de lui.
Ah oui, il y a une vibration, c'est rien que sa voix en fait. Et alors on l'entend, on l'a là à côté, et puis on entend tous les discours, parce qu'il y a eu... des tonnes de discours au moment de son accès à la présidence. Vous en avez rediffusé aussi quelques-uns au moment de sa libération, au moment des procès où il a été jugé. Donc voilà, on entend sa voix, on entend tout ce qu'il raconte, parce qu'il aime parler de ce qu'il a vécu, il aime partager ses souvenirs de prison, etc. Et donc là, oui, il raconte sa vie, en fait, et il n'y a qu'à écouter, en fait. Et c'est un moment magique, ouais.
On dit toujours quand on est journaliste, ah, si je pouvais rencontrer Barack Obama, si je pouvais rencontrer je ne sais pas qui, je poserais cette question-là. Vous avez posé une question à Nelson Mandela?
Mais en fait, c'est un peu particulier parce que je suis allée là, j'étais pas encore totalement journaliste, pour dire la vérité. Je terminais mes études et j'étais pas tellement encore dans cette démarche-là. J'avoue que j'étais fort impressionnée aussi. Et donc, voilà, je lui ai posé des questions par rapport à ce qu'il racontait. Il parlait de sa vie en prison. Je relançais comme on fait dans une interview aujourd'hui, mais je suis pas venue avec une question très précise. Mais c'est vrai que... Moi, si, quand on me disait « est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais rencontrer un jour ?», c'était clairement Nelson Mandela. Donc voilà, j'ai juste savouré ce moment. Un moment de grande simplicité, hein, juste un repas. Je me souviens, il y avait une baie de vinaigrette en pot au milieu de la table. C'était sans chichi chez Mandela. Il ne mangeait pas beaucoup. Il mangeait quelques légumes, voilà.
Mais donc, vous avez rencontré donc une icône du XXe siècle, hein, voilà. Et... Mais dans ce qu'il vous a dit, il y a des phrases ou des moments de ce qu'il a raconté, de sa détention, qui vous sont peut-être restés plus particulièrement en mémoire?
Il n'y a pas un moment en particulier. Moi, ce que je retiens, c'est l'humanité de ce type, ouais. En fait. Avant tout, c'est le fait que oui, on est là face à une icône, mais qui s'intéresse à vous. Et je pense que c'est ce qui définit, en fait, cette personnalité. C'est quelqu'un qui s'est battu pour l'intérêt général, pour les Noirs d'Afrique du Sud, mais aussi... pour tous ses compatriotes, qu'ils soient blancs ou noirs, parce que la manière dont il a géré les choses l'a démontré. Donc c'est quelqu'un qui est totalement tourné vers l'autre, ça fait partie de sa philosophie. Et donc il vous pose des questions, ah oui, pourquoi est-ce que vous êtes en Afrique du Sud, pourquoi est-ce que ça vous a intéressé, etc. Et donc moi ce que je retiens, c'est l'empathie en fait de ce personnage qui, malgré qu'il n'a plus rien à prouver à personne, est toujours dans cette simplicité-là et dans cette attention-là aussi.
Ouais, donc Nelson Mandela qui a passé 27 ans en prison, qui en est sorti en 1990. Comment expliquer que la lutte contre l'apartheid soit parvenue à faire plier le très puissant régime blanc d'Afrique du Sud? C'est aussi une question que j'ai posée à Pierre Galland, on le retrouve.
Eh bien, c'est que aux côtés de la mobilisation populaire qui va exister aussi grâce à l'appui, il faut savoir, des syndicats. Les syndicats vont jouer un rôle extrêmement important. Et c'est la COSATU, qui est la coordination de tous les syndicats sud-africains, qui dès 1985 demande, appelle le monde entier pour lutter contre l'apartheid à organiser le boycott. Et donc le boycott contre l'Afrique du Sud va prendre différentes formes, et une de ces premières formes va être le boycott contre les fruits de l'apartheid. Les fruits, ce sont des oranges qui arrivent sur nos marchés toujours au mois de février, parce qu'il y a des moments différents où on vend les produits comme les pommes, les poires, les oranges. Eh bien, en Belgique, ça arrivait au mois de février. Et comme il y a un appel syndical, les syndicats belges vont eux-mêmes réagir. Et dès 1984, il faut savoir que l'ULB a, à l'appel justement de la professeure Pirsomati, a accordé le titre de docteur honoris causa à Nelson Mandela. On est quelque part à l'avant-garde. Et ça va donc enclencher chez nous, au sein du mouvement ouvrier, que ce soit la FGTB, que ce soit la CSC, ils vont se mobiliser et il va y avoir des grandes conférences pour dénoncer l'agression de l'Afrique du Sud en Namibie. Mmh. Et cette agression va provoquer un réveil des Nations Unies et son obligation de commencer à légiférer pour dénoncer d'abord le pillage des produits, des richesses de la Namibie. Il va y avoir des résolutions particulières des Nations Unies dès le 30 novembre 1973. Mmh. Et cette résolution, c'est de décréter que l'apartheid est un crime. Donc c'est vraiment il y aura tout un travail de pression de la part des organisations de jeunesse, comme que nous étions, de la part des syndicats, de la part des intellectuels progressistes, et finalement ça prend la forme que, eh bien, à l'ONU, le 30 novembre 1973, l'apartheid est déclaré un crime contre l'humanité. Et ce crime va être reconnu dès 2002 aussi, par la Cour pénale internationale. C'est donc, il y a une construction qui se fait, et le droit international sera un des piliers qui va légitimer l'action contre l'apartheid, qui va légitimer le fait que l'apartheid est un crime, et c'est important parce que c'est à partir de là qu'on va définir que le crime d'apartheid n'est pas seulement un crime spécifique à l'Afrique du Sud, mais qu'il peut être commis également par d'autres puissances, et c'est le cas aujourd'hui des dénonciations qui sont faites contre Israël, où on définit aujourd'hui que les pratiques israéliennes à l'encontre des Palestiniens relèvent du crime contre l'apartheid.
Alors l'autre élément qui a joué, donc vous avez parlé du boycott, enfin toute une série de moyens, hein, de lutte contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela. Quelque chose qui a changé aussi beaucoup, c'est évidemment le contexte international dans ces années 80. L'argument pour soutenir l'Afrique du Sud de la part des États-Unis, mais aussi des autres pays occidentaux, c'est qu'il était une forme de bloc qui résistait au marxisme, au communisme qu'incarnait l'ANC. Ça n'a plus été vrai à la fin des années 80 et les soutiens à l'Afrique du Sud ont fondu. Ça a aussi beaucoup joué, peut-être autant que les luttes et les mobilisations.
Très clairement. Bon, de nouveau, fait historique, c'est la chute du mur de Berlin. Le fait de la chute du mur de Berlin, l'implosion de l'URSS, fait qu'il y a un créneau qui permet effectivement, sur le plan international, de donner une très grande résonance, non seulement à ce fait historique de la chute du mur et de l'implosion soviétique, mais aussi à un changement de rapport de force international. Ce qui fait que, très très vite, la question de la résolution de la situation de l'apartheid en Afrique du Sud et des revendications noires pour la reconnaissance de leurs droits, de la plénitude de leurs droits, c'est-à-dire de pouvoir les voter, ça va émerger. Et dans le même temps, il y a cette négociation, la sortie de Mandela de prison, le fait que de Klerk est mis sous pression, et que cette pression, elle s'exerce à ce moment-là, parce que quand on parle du boycott, le boycott qui est exercé à cette époque-là, c'est les banques se ferment, les circuits commerciaux sont fermés. En Belgique, le ministre de Housse, qui est président de la communauté française, va suspendre tous les accords culturels avec l'Afrique du Sud. Et donc, il y a un enchaînement qui fait que, eh bien, on va considérer que Nelson Mandela n'est plus le terroriste, Notez bien qu'il restera pour la loi américaine, il ne faut pas oublier qu'il restera un terroriste jusque dans les années 2000. Hein. Mais on le considère cette fois-ci comme un homme de paix et on négocie avec lui. Et comme il veut aboutir à une solution, il va passer par une série de fourches caudines qui sont imposées à l'Afrique du Sud, notamment l'Afrique du Sud qui était une puissance nucléaire. N'oubliez pas que le Cape Town, c'est quand même le passage entre les grands océans de notre planète. Cape Town et l'Afrique du Sud va être dénucléarisée, c'est-à-dire que c'est aussi un exemple. On va retirer les armes nucléaires de l'Afrique du Sud. J'espère qu'un jour, on le fera partout ailleurs aussi d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment, de nouveau, il y a un créneau historique qui permet d'entraîner toute une situation, j'ai envie de dire, positive et conforme au droit international.
Mener cette transition dans une société qui est fracturée en Afrique du Sud, Julie Morel, vous nous expliquiez que vous étiez allée en Afrique du Sud en 1999 pour votre mémoire. Votre mémoire, il portait sur quoi ?
C'était intitulé « L'Afrique du Sud post-apartheid, de la discrimination raciale à la discrimination économique ». Ça dit assez clairement, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un moment de bascule très important, très symbolique, mais que dans les faits, il y a peu de choses qui changent directement pour les Noirs d'Afrique du Sud. Parce qu'ils ne sont pas spécialement éduqués, parce qu'ils ne sont pas spécialement riches, et que tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, bien sûr, ils peuvent utiliser les mêmes moyens de transport, ils peuvent aller se rendre aux mêmes endroits, mais concrètement, ce sont toujours les Noirs qui marchent le long des nationales et les Blancs qui sont dans les voitures sur ces mêmes nationales. Dans les entreprises, il y a des quotas qui vont être instaurés, hein, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle l'affirmative action, qui va être très fort développée en Afrique du Sud, la discrimination positive avec des quotas dans les entreprises pour qu'il y ait plus de dirigeants noirs, etc. Mais tout ça, c'est très compliqué parce que, évidemment, il faut trouver du personnel, des employés qui ont le niveau d'éducation nécessaire. Alors certes, il y en a, et c'est bien qu'enfin on leur donne de la place, mais il n'y en a pas toujours assez. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement formés pour occuper les fonctions qu'ils exercent, qui sont là. Et donc ça crée de nouvelles tensions. Idem avec une politique dont on a beaucoup parlé en Afrique du Sud, qui est le Black Economic Empowerment. Et c'est l'empuissancement économique des Noirs. À un moment donné, on veut qu'ils aient plus de capital dans les entreprises. Alors certes, c'est intéressant, mais ce qui se passe dans la foulée, c'est que le système est un peu tordu parce qu'on vient avec des politiques qui sont un peu artificielles sur une réalité sociologique qui, elle, n'a pas totalement changé. La violence, c'est toujours les Noirs qu'elle concerne. Les maladies, le sida en premier lieu, parce que dans les années 90, l'Afrique du Sud est ravagée par le sida. C'est d'ailleurs une des taches noires dans le tableau dans le bilan de Mandela, parce que c'est vrai que c'est une icône. Mais là, il a reconnu lui-même qu'il n'avait pas mesuré en fait à quel point cette maladie allait faire des ravages. Il l'a sous-estimé. Et donc, tous ces fléaux, c'est toujours les Noirs en fait qui en sont victimes. Quand moi j'étais accueillie par des familles blanches, il y avait des jardiniers noirs, des cuisiniers noirs. La société ne change pas du jour au lendemain. C'est comme ça que ça se passe. Et les emplois considérés comme peu qualifiés, c'est toujours les Noirs qui les occupent et les Blancs qui ont fréquenté de bonnes écoles ont accès non seulement à la richesse, mais à tout le reste.
Vous avez l'impression d'avoir rencontré en 1995 une Afrique du Sud en désillusion, en frustration, qui attendait peut-être beaucoup de la libération de Mandela et de la transition, ou une Afrique du Sud patiente, consciente de ce que ça met du temps de changer comme ça. C'était quoi la réalité que vous avez rencontrée ?
Alors, ce qui est assez difficile, c'est de rencontrer l'Afrique du Sud, parce que comme cette société est fracturée, on rencontre une Afrique du Sud à un moment donné quand on rencontre certaines personnes et puis on en rencontre une autre à d'autres moments. Et moi, j'ai passé une année complète en Afrique du Sud en 95-96. J'étais accueillie à l'époque par des familles blanches et donc j'ai rencontré une Afrique du Sud. Dans certaines maisons où j'étais accueillie, la première chose qu'on voyait dans le hall d'entrée, c'était le drapeau de l'ancienne Afrique du Sud.
Celle des Africaineurs.
Pas celle des Africaineurs, pas le drapeau multicolore bien connu de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Donc ça témoignait de cette de cette résistance au changement, en fait. On voulait garder ses privilèges. Par contre, frustrée par cette expérience, j'y suis retournée quelques années plus tard. Et là, j'ai eu des contacts avec une autre Afrique du Sud, l'Afrique du Sud des Noirs. Et en effet, les messages n'étaient pas les mêmes. Alors, certes, il y avait beaucoup d'espoir. Certes, il y avait beaucoup de désillusions. Je pense que c'était les deux. Il y a toujours eu ce mix-là. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de tellement fort que tout le monde s'est dit « mais voilà, tout est possible ». Mais la réalité venait souvent rattraper la population. Alors, il y avait l'accès, tout d'un coup, théorique à toute une série de choses. Mmh. Mais pour passer de la théorie à la pratique, il fallait des petites choses qui n'étaient pas toujours là.
Ouais, finalement, est-ce que la grande réussite de Mandela, c'est d'avoir évité que l'Afrique du Sud n'implose, enfin, c'est-à-dire que au début des années 90, on le dit dans le récit, mais il y avait un vrai risque de guerre civile.
Tout à fait.
Après, les avancées économiques, en matière de santé, sociologique, sociétale, ne sont pas très impressionnantes dans les années 90 en Afrique du Sud. Mais par contre, on évite la guerre civile.
Oui, et c'était un vrai risque. Ce pays pouvait imploser. Et c'est là tout le talent de Mandela, et de De Klerk aussi, d'ailleurs. C'est d'avoir réussi à construire cette sortie-là. Parce que les tensions étaient très fortes. En fait, on parle de tensions, mais moi, ce que j'ai vécu, c'était au-delà des tensions, c'est des gens qui ne se parlent pas, qui ne se rencontrent pas, en fait. C'est ça l'apartheid, et c'est ça qui a perduré. Après.
En fait, l'apartheid a continué après la fin de l'apartheid, c'est ça.
C'est des gens qui ne se rencontrent pas, ou quand ils se rencontrent, c'est dans un rapport qui reste de dominant à dominé, en fait. Et donc oui, pour revenir à la question initiale, je pense que le grand talent de Mandela, ça a été de trouver une issue pacifique à cette crise, parce que ça fait partie de la philosophie du personnage. Je disais tout à l'heure qu'il avait une grande empathie quand j'avais été chez lui, qu'il était attentif. Une petite étudiante qui est là dans sa maison, qu'est-ce que je vais m'intéresser à elle? Mais Mandela, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à l'autre. Et sa liberté n'avait de valeur que si les autres gardaient la leur aussi. Et donc, il a toujours conçu l'histoire de cette manière-là, je pense. La liberté des Noirs n'avait de valeur que si les Blancs gardaient la leur. Donc, l'idée, c'était pas la vengeance. C'est la philosophie humaniste qui était la sienne. C'est ce qu'on appelle l'Ubuntu.
Son clan, d'origine.
Voilà, ouais. L'Ubuntu, c'est ça. C'est « je suis car tu es ». Et ça, on ne peut s'envisager qu'ensemble, en fait.
Ouais. Il avait d'ailleurs étudié la culture africanaire qui... Ouais. Qu'il avait essayé même de comprendre, ce qui a beaucoup choqué à l'ANC à l'époque, d'essayer de comprendre que eux-mêmes, ces colons africanaires, étaient victimes quelque part des Anglais. Enfin,
oui,
c'est toute l'histoire de l'Afrique du
Mais
Sud.
Mais en prison, oui, ça témoigne quand même de l'incroyable humanité de ce personnage qui apprend l'africaneur en prison pour pouvoir mieux comprendre et pour pouvoir mener une lutte plus efficace aussi, hein, parce que c'est très pragmatique, hein, il est très pragmatique, Mandela, et il a ses idéaux de lutte non violente, etc. Au moment où il se rend compte que ça marche pas, ce sera la lutte armée. Et donc c'est quelqu'un de très pragmatique, mais c'est en effet quelqu'un qui en même temps refusera toutes les propositions de libération s'il y a des conditions, hein, parce que on lui a proposé plusieurs fois de sortir de prison, mais il n'acceptait pas les conditions. Donc c'est quelqu'un qui résiste jusqu'au bout, qui refusera d'appeler le personnel blanc de la prison basse, maître en afrikaner. Donc, mais qui fera l'effort de comprendre la langue pour entrer en connexion en fait avec ceux qui font intégralement partie de son pays. Et ça, il n'a jamais été dans une logique de « on va chasser les Blancs » en fait. Non, il reconnaissait que c'était aussi, que l'Afrique du Sud était aussi le pays des Afrikaners et des anciens colons britanniques.
Bon ben merci. Julie Morel, hein, donc je rappelle, bon, le mémoire, on ne peut pas le lire. Pas comme si vous aviez écrit un livre.
Non, mais je crois qu'il vaut mieux pas aller le rechercher d'ailleurs.
Dans les archives de l'ULB, pour ceux qui sont intéressés. Merci Julie Morel de vos
éclairages. Merci à tous les deux.
Merci aussi à Pierre Galland d'avoir été avec nous dans cette émission.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la SONUMA, une émission réalisée par Jonathan Remy.